Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres de ce bulletin. Le Canada envisage de rétablir l'obligation de visa pour les citoyens tchèques. Les élections législatives anticipées auront lieu le 9 et 10 octobre en République tchèque. Et puis, inondation, baisse du niveau des eaux, mais de nouveaux orages en République tchèque. Le Canada envisagerait donc de rétablir l'obligation de visa pour les Tchèques à la suite de l'afflux ces derniers mois de centaines de Roms tchèques qui ont demandé l'asile. C'est ce qu'a fait savoir mercredi le ministère tchèque des Affaires étrangères. Les Roms demandeurs d'asile affirment être victimes de discrimination de la part du reste de la population tchèque. Le ministre des Affaires étrangères, Jan Kohout, a dit avoir rencontré il y a quelques jours le ministre canadien de la Citoyenneté et de l'Immigration, Jason Kenney. Je peux confirmer que la partie canadienne nous a informé de mesures à l'étude, y compris l'introduction d'une obligation de visa en réaction à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. C'est ce qu'a déclaré Jan Kohout lors d'une conférence de presse. Pour l'instant, l'ambassade du Canada à Prague n'a pas dit si l'obligation de visa serait rétablie. Les élections législatives anticipées en République tchèque se dérouleront les 9 et 10 octobre prochains. C'est ce qu'a décidé mercredi à Prague le président de la République, Václav Klaus. Cette décision doit encore être entérinée par le Premier ministre, Jan Fischer. L'actuel gouvernement transitoire de Jan Fischer, composé d'experts sans étiquette, a remplacé, vous le savez, le 8 mai, le cabinet de centre-droit du libéral Mirek Topolánek, qui a dû démissionner fin mars en pleine présidence de l'Union européenne après une motion de censure initiée par l'opposition. Le cabinet transitoire a mené jusqu'au bout la présidence tchèque de l'Union européenne, jusqu'au passage du relais à la Suède ce mercredi. De violentes précipitations ont encore touché la République tchèque dans la soirée de mardi et dans la journée de mercredi. Si le niveau des rivières a baissé, des orages sont encore attendus dans la soirée de ce mercredi. La semaine dernière, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations faisant 13 morts dans le pays. Le gouvernement a déjà débloqué une enveloppe de 99 millions de couronnes et le ministre des Finances, Edouard Janota, a estimé que les dégâts pourraient s'élever à plus de 5 milliards de couronnes. On passe à la culture et 58 jeunes musiciens issus de 9 pays du monde se sont retrouvés depuis mardi dans la ville de Telč pour participer à la 15e édition de l'Académie franco-tchèque de musique. Pendant les 10 jours à venir, ils pourront profiter des cours de flûte, de hautbois, de clarinette, de cor, de viol, dispensés par des professeurs venus de Paris, de Lyon ou encore de Dresde en Allemagne. Cet événement traditionnel a failli ne pas se dérouler cette année, faute de financement à cause de la crise économique. Pour y faire face, le nombre de concerts et de classes ont été réduits. Le 10 juillet se déroulera le concert de clôture dans l'église Saint-Jacques de Telč. On termine avec la météo, une météo importante en cette période d'inondation. Et le temps couvert et orageux a caractérisé la journée de ce mercredi. Il y a un orage en ce moment à Prague. Aujourd'hui, on est le jour de fête des Jaroslava, selon le calendrier tchèque. Les températures aussi entre 22 et 26 degrés. Attention, la météo instable et orageuse devrait se poursuivre toute la semaine. Attention donc dans les zones inondées ces derniers temps, c'est-à-dire en Moravie du Nord et en Bohême du Sud. Pour l'instant, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Voilà pour le résumé des informations en République tchèque. Dans un instant, c'est la suite du programme en français de Radio Prague. Le bulletin vous était présenté aujourd'hui par Alexis Rosenzweig. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
La présidence tchèque de l'Union européenne s'est achevée le 30 juin par une conférence ambitieuse à l'issue de laquelle 46 États se sont engagés à poursuivre le processus de réparation des spoliations subies par les Juifs pendant la guerre. Plus de détails dans un instant. Nous parlerons ensuite de la décision du gouvernement de limiter le budget destiné à la science et les recherches. Ce sera juste avant de revenir sur le festival de musique Respect avec le trompettiste français Éric Truffaz. Voilà pour le sommaire et comme toutes les semaines à cette heure-ci, il y aura la page historique de Radio Prague. Très bonne écoute à toutes et à tous. La conférence sur le sort des biens des victimes de l'Holocauste s'est terminée mardi avec la signature de la déclaration de Térézine par les représentants d'une cinquantaine de pays. Retour sur ce dernier événement important de la présidence tchèque de l'Union européenne avec Alexis Rosenzweig.
La déclaration de Térézine constitue un engagement moral pris par 46 pays sur un certain nombre de bonnes pratiques afin de surmonter les disparités préoccupantes qui subsistent encore 64 ans après la fin de la guerre. La déclaration a rappelé l'urgence d'améliorer sur le plan économique et social le sort des rescapés de la Shoah encore vivants et qui, dans plusieurs pays, vivent dans une situation précaire. Et par ailleurs, l'importance de poursuivre ou simplement d'entamer dans certains pays cette tâche en matière de devoir de mémoire, de restitution ou compensation pour les œuvres d'art et les biens immobiliers. Stuart Eisenstadt est avocat, il était le chef de la délégation américaine à cette conférence.
This is the most detailed and comprehensive. That are by their nature non-binding and voluntary.
C'est la déclaration la plus complète et la plus poussée concernant les biens de l'Holocauste. Elle couvre des points jamais abordés, comme les aides sociales aux survivants et la restitution des propriétés privées. Cette déclaration ne lie pas juridiquement les signataires, mais elle crée d'importants engagements moraux. Et au XXIe siècle, les réputations nationales peuvent être faites et défaites selon la volonté d'assumer ce que les États se sont engagés à faire. Je voudrais rappeler qu'un tiers des survivants de l'Holocauste dans les nations les plus riches du monde vivent à la limite ou sous le seuil de pauvreté, et c'est inacceptable.
La conférence s'est terminée mardi à Térézine avec une représentation du Requiem du défi, l'hommage rendu à ceux qui avaient interprété le Requiem de Verdi dans le camp de concentration qu'est devenu Térézine sous l'occupation nazie. La ville de Térézine cherchait désespérément à devenir le siège d'une université ou d'une institution internationale, car depuis le départ de l'armée, il y a quelques années, cette petite commune, à l'histoire trop chargée, se vidait de ses habitants. Parallèlement à la déclaration qui porte son nom, l'Union européenne s'est engagée à créer un institut européen de la Shoah dont le siège sera à Térézine et qui assurera le suivi du processus de restitution, un processus encore très embryonnaire en Europe centrale et orientale. Dans la déclaration, les signataires s'engagent notamment à faire le point d'ici à juin 2010 sur les démarches mises en œuvre.
L'Académie tchèque des sciences proteste contre la réforme du financement de la science adoptée par le cabinet Topolánek et mise en œuvre par le gouvernement d'intérim de Jan Fischer. L'objectif de cette réforme est de redistribuer les moyens destinés à la recherche et à la science de sorte que l'Académie sera privée d'un tiers de revenus au profit de l'encouragement des innovations industrielles et de la science appliquée. En chiffres concrets, l'Académie des sciences, qui est la première institution scientifique dans le pays, verra son budget réduit de 5,8 milliards à 4,6 milliards de couronnes l'année prochaine. Et d'ici 2012, les dotations devraient baisser à 2,8 milliards, soit presque de moitié par rapport à l'état actuel. Pour Jan Fischer, cette restriction reflète les conséquences de la crise économique et financière, et la science n'est pas le seul domaine touché. L'Assemblée académique, convoquée au lendemain de l'aval donné par le cabinet, a appelé ce dernier à stopper la réforme, menaçant de recourir à des protestations à différents niveaux. Si la réforme est appliquée, l'Académie, qui produit jusqu'à 40% de projets scientifiques tchèques avec succès, sera menacée de disparition, souligne son chef Jiří Drahoš.
L'année prochaine, je serai contraint de procéder à des licenciements et d'arrêter les investissements pour l'achat de nouveaux appareils et d'autres encore.
La ministre de l'Éducation, Miroslava Kopitsova, le voit autrement.
La situation n'est pas aussi dramatique puisque le budget de l'Académie des sciences baissera en fait au niveau de l'année 2006.
L'argument du gouvernement selon lequel l'enveloppe destinée à la science ne changera pas, sinon que plus de moyens seront versés aux recherches appliquées et aux produits commercialisés, est refusé par les chercheurs. Il insiste sur le fait que sans recherche fondamentale, on ne peut pas faire de bon business, comme le prouve l'exemple du savant tchèque le plus connu, Antonín Holý, qui a développé dans les laboratoires de l'Académie des sciences le médicament antiviral pour le traitement du VIH, dont l'usage est le plus répandu actuellement dans le monde. Dans leur protestation, les chercheurs de l'Académie des sciences sont appuyés par des représentants de plusieurs universités qui ne s'attendaient pas non plus à des limitations de ce genre. Le président de l'Académie, Gide Laroche, veut attendre la période d'après les législatives anticipées pour en discuter avec le nouveau cabinet. Il n'exclut pas non plus de porter l'affaire devant le commissaire européen en charge de la science et de la recherche. Retour sur le festival Respect, festival pragois de world music qui a terminé il y a quelques jours son édition 2009 sur l'île de Štvanice avec des groupes de République tchèque, d'Hongrie, du Brésil, de Norvège ou encore du Congo et du Mali. Le trompettiste français Eric Truffaz s'est à nouveau produit dans la capitale pragoise avec un projet indien. Il a répondu aux questions d'un clair velouir sous une pluie diluvienne.
J'aime revenir dans les villes où j'ai un bon public, donc je suis toujours très content de revenir à Prague. J'ai rêvé pendant des années de jouer à Prague. Ça a pris du temps. Au début, j'ai joué dans un petit club qui s'appelle le Lucerna, et après, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de succès. Le public est super, magnifique.
Justement, la dernière fois que vous étiez là, vous étiez venu avec le projet Arkhangelsk. Cette fois-ci, vous êtes venu avec un projet indien. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à marier la musique indienne et votre musique à vous ?
J'ai fait une tournée en Inde et j'ai adoré cette musique. J'ai rencontré des musiciens en Inde et du coup, j'ai voulu retourner en résidence pour élaborer un projet.
Ces musiciens, vous les avez trouvés, vous les avez rencontrés là-bas ?
Oui, dans chaque ville d'Inde, j'invitais des musiciens. Et eux, je les ai rencontrés à Calcutta et ils m'ont beaucoup plu. C'est un peu comme ça souvent que je construis les disques.
Qu'est-ce que vous aimez dans la musique indienne ?
L'espace, la contemplation. J'aime beaucoup l'Inde. Je suis allé en tournée en Inde et après je suis revenu 2 années de suite.
La musique indienne, je ne suis pas musicienne, mais il me semble que techniquement, ou on va dire rythmiquement, c'est une musique qui est très différente de la musique jazz, pop ou rock qu'on entend en Occident. Est-ce que le mariage est très réussi sur scène, mais est-ce que techniquement c'est difficile à réaliser ?
C'est toujours difficile à réaliser la musique, que ce soit de la pop ou de la musique indienne. Là, la difficulté effectivement, c'est que ça ne fasse pas collage. Et c'est pour ça que je suis allé en Inde pour enregistrer. Et c'est pour ça aussi que le tablaïs, il est venu chez moi aussi, pas mal de temps. Et j'ai essayé comme ça de m'imprégner de cette musique. Mais j'écoutais beaucoup de musique indienne avant. Mais ça tient toujours à un fil, les mélanges. Hein. On est toujours à un cheveu du mauvais goût. J'espère que j'y échappe, mais c'est toujours très délicat.
Truffaz est actuellement en tournée avec 3 projets différents qui seront présentés cette année en même temps dans le cadre du prestigieux Festival de Montréal. Il prévoit déjà de revenir à Prague en 2010 avec Sly Johnson, vocaliste du groupe de hip-hop parisien Sayan Supakru. Autre mélange, celui du kamele ngoni, un instrument à cordes traditionnelles malien, et de la musique électronique avec Issa Bagayogo, qui a ainsi clôturé le Festival de musique du monde Respect 2009.
Et Et voici encore une information musicale. Le groupe Tchechomor se prépare à son concert, qui sera donné le 22 juillet à Prague, avec la chanteuse américaine Suzanne Vega, qui était plusieurs fois déjà en concert à Prague, mais cette fois ce sera une première avec Tchechomor, compagnie musicale Tchechomorav, qui mélange le folklore morave, le rock et le pop. On l'écoute dans l'un de ses tubes.
Divelické zvony pěkně vyzváňají, lidé se čudují, co to znamenají, co to znamenají. Jedni povídají, Kníčkové idu, druzí povídají, pochovávat budu, pochovávat budu. Pochovávat budu, jednej mám se syna, co ho otrávila. Jeho roztomila, jeho roztomila. Nešťastná galánko, jak na pohreb půjdeš, nešťastná galánko, kerak plakat budeš, kerak plakat budeš.
C'était les faits et événements. Merci de les avoir écoutés. Le programme sur Radio Prague continue.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Il y a une semaine, cela faisait 50 ans que l'écrivain et musicien Boris Vian nous quittait. Pas de lien a priori entre Boris Vian et Prague, si ce n'est qu'il aurait sûrement apprécié les clubs de jazz. Mais nous saisissons ici l'occasion d'évoquer les rapports complexes qui ont existé entre la bohème et des personnalités aussi singulières que Vian, à savoir André Breton et Albert Camus. Les relations entre surréalistes tchèques et français condensent les quelques ambiguïtés qui ont pu exister entre les écrivains des deux pays durant le XXe siècle. Côté tchèque, citons le théoricien de l'art Karel Tiger, les peintres Jindřich Štyrský et Maria Čermínová, plus connus sous le nom de Troyen, tous fondateurs du mouvement d'avant-garde d'Eliézil dans les années 1920. Tous ces artistes connaissaient bien Paris pour y avoir effectué des voyages fréquents et par conséquent le mouvement surréaliste.
Le surréalisme, c'est par définition l'automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée.
André Breton, que l'on vient d'entendre, véritable père du surréalisme, n'a pas fait tout de suite des émules auprès des artistes tchèques. Les membres du Deviezil en particulier restent longtemps critiques, et pour tout dire hermétiques, à son égard. Ils condamnent la forme narrative des peintures, qui leur paraît dépassée par rapport au cubisme. Le poète Vítězslav Nezval juge la démarche surréaliste vaine, sinon futile, et il ne ressent aucune affinité pour l'écriture automatique. Pourtant, la situation va rapidement évoluer. À partir de 1933, Nezval se rapproche d'André Breton, et bien vite, Karel Tiger et Jindřich Štyrský prennent la direction du groupe surréaliste tchèque. En mars 1935, André Breton se rend à Prague où il prononce un discours à l'association des peintres et plasticiens Manès devant près de 800 personnes. Il y rend un hommage à Prague en parlant de la ville magique de la vieille Europe. Dans la bouche de Breton, le mot « magique » a sans doute un sens noble, magie des mythes mexicains, magie de l'art. Pourtant, elle réactive, ou active avant la lettre, cette image de carte postale qui colle tant à la capitale tchèque. Car du mystique et du mystérieux à la fin du XIXe siècle, au magique du tourisme de masse, le pas a été franchi dès la période communiste. Peter Demetz, émigré depuis 1948 aux États-Unis où il enseignait la littérature allemande à l'université de Yale, évoquait les lendemains désenchantés du printemps de Prague en ces termes, nous le citons. La nostalgie d'une Prague magique sert maintenant de camouflage à un anticapitalisme romantique, mais elle est devenue en même temps une marchandise dont on fait commerce pour les touristes. En fait, pour certains historiens, la phrase d'André Breton pourrait être à prendre au second degré. Ne doit-on pas comprendre en effet que Prague, capitale magique de la vieille Europe, a désormais un rôle secondaire par rapport à Paris, ville surréaliste de la nouvelle Europe?
Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jím se vzdávám svého prezidentského úřadu. A obracím se na vás, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými politickými spolupracovníky.
Automne 1938, Beneš prend acte avec résignation de la conférence de Munich. La menace nazie se rapproche et le parti communiste en Tchécoslovaquie est en effervescence. Vítězslav Nezval, qui est membre du parti, doit sur sa pression dissoudre le mouvement surréaliste tchèque. André Breton, qui avait rompu avec le parti 3 ans auparavant, tente, en vain, de l'en dissuader. Quittons maintenant André Breton pour aborder le cas bien spécifique d'Albert Camus. Pour le père de l'absurde, ce n'est plus l'ambiguïté, mais une absolue étrangeté qui caractérise ses liens avec la bohème. Tiré d'un fait divers, sa pièce, Le Malentendu, est représentée au Théâtre des Mathurins le 24 juin 1944. Camus pensait à l'origine au titre de Budějovice, car l'action se situe dans le sud de la Bohème. L'histoire, un jeune homme, Jan, est assassiné par sa mère et sa sœur, qu'il venait retrouver 20 ans après avoir quitté son village natal et fait fortune. Tenant une auberge, elles avaient l'habitude d'assassiner et de voler les riches touristes qui faisaient étape chez elles. Jan, qui voulait leur faire une surprise, avait caché son identité le premier soir, ce qui lui sera fatal. La pièce se termine par le suicide de la mère et de la sœur. Ce n'est pas un hasard si Albert Camus a choisi la Bohème pour cadre d'une histoire qu'il qualifiait lui-même de particulièrement sombre. L'écrivain effectue un voyage à Prague au cours de l'été 1936. Il traverse alors une crise personnelle et la bohème agira sur lui comme un véritable révélateur. Il relate son séjour dans l'envers et l'endroit. C'est lors d'une nuit à l'hôtel qu'il ressent une tristesse étouffante, qu'il découvre aussi le sentiment profond de l'exil et la nausée de l'existence. Ce thème préfigure celui de l'absurde et on le retrouvera désormais dans ses œuvres majeures. D'une certaine façon, son séjour à Prague, empreint de malaise, aura été fécond, si ce n'est catalyseur, de l'absurde camusien. Enfin, si les rapports entre écrivains français et terre tchèque ont pu être complexes, ce fut le cas dans les deux sens. On sait l'influence qu'eut Jean-Paul Sartre sur les intellectuels tchécoslovaques durant les années 50, Antonin Lim l'a évoqué dans ses entretiens. Mais l'aura de Sartre n'aura pas été à toute épreuve, et elle aura aussi donné lieu à quelques critiques salutaires.
Il était philosophe. Être philosophe, ça veut dire aimer la vérité. Mais parfois, il l'a démenti. C'était au moment des procès de Prague, c'était au moment de son retour de l'Union soviétique en 54, quand il a écrit plusieurs textes sur la belle vie menée par les citoyens soviétiques, et il n'a même pas mentionné les camps de concentration.
C'était le poète et traducteur Jan Vladislav qui nous quittait en mars dernier.
C'est la fin du programme en français sur Radio Prague. Merci de votre fidélité. L'information continue sur www.radio.cz. Au revoir.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.